France Inter, le 13-14, Bruno Duby.
C'était il y a à peine plus d'un an, le site Loopsider publiait les images d'un homme se faisant casser la figure par plusieurs policiers dans son studio du 17e arrondissement. On apprend bien vite qu'il s'agit du producteur de rap Michel Zecler. Un an après, la justice ne s'est pas encore prononcée. Les quatre policiers mis en examen pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique restent suspendus. L'enquête judiciaire continue. Quant à Michel Zecler, il publie aux éditions Plomb un récit intitulé « Restez debout ». Qui va bien au-delà de cet épisode, même s'il en est longuement question. Récit d'une vie, la dérive d'un ado dans une banlieue difficile, 7 années en prison, une page brillante de l'histoire du rap aussi. Et cette confession, il y a en moi une vraie ambivalence, une partie de moi est revendicatrice de mon identité, ma couleur de peau, mes origines. Une autre éprouve le désir de se fondre dans une société sans couleur, dualité que je n'arrive pas à réconcilier. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions sur ce témoignage et ce parcours. Bonjour Michel Zecler.
Bonjour Bruno.
21 novembre 2020, qu'est-ce qu'il en reste?
Il en reste ces images qui tournent tout le temps dès qu'on parle de cette date.
Oui.
Il en reste que j'ai voulu écrire un livre pour justement ne pas laisser que les gens puissent comprendre qui était la personne ma personne voilà.
Il en reste une blessure physique toujours, même si ça va mieux, le bras très abîmé. Et il en reste surtout une blessure psychologique. Le physique s'arrange, le psychologique c'est plus compliqué.
C'est un petit peu plus long effectivement, et avec l'aide de spécialistes, j'arrive à aller de l'avant.
Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé il y a un an, ou toujours pas?
C'est pas évident de comprendre des réactions qui ne sont pas logiques, naturelles.
Vous racontez comment ça s'est passé. Tout d'un coup, vous sentez des mains vous tirer vers l'intérieur du studio, puis les coups qui pleuvent. Alors vous dites, voilà, j'avais pas de masque. On était déjà au moment du confinement. On parle de forte odeur de cannabis. On trouvera 1 demi-gramme. Mais il y a tout d'un coup ces mains qui vous tirent et ces coups qui pleuvent, qui pleuvent, qui pleuvent. Sans que vous compreniez.
Oui, alors déjà, je voudrais revenir sur quelque chose, que c'est vrai que ça m'agace un petit peu qu'on me parle justement de cette odeur de cannabis,
ouais.
Parce que si vous voulez, c'est venu au bout de leur troisième déposition,
ouais.
Une fois que les vidéos sont sorties, donc une fois que leurs mensonges sont mis au grand jour.
Ouais.
Parce que ce jour-là, je sais ce qu'a été ma journée, et je peux vous assurer que aucune odeur n'émanait de ma personne. Et puis il faut savoir aussi que c'était la même période. Il faisait froid.
Aucun cas, de toute façon, ça ne justifierait ce qui s'est passé.
Bien sûr, c'était la conclusion.
Alors, vous racontez cet épisode à la fois au début et à la fin de votre livre. À la fin, il y a notamment l'attitude de l'officier de police judiciaire, du médecin à l'unité médico-judiciaire à l'hôtel Dieu. Autant de gens qui cherchent à minimiser les faits, les policiers qui essayent de récupérer le portable, qui essayent de récupérer votre pull qui est taché de sang, où vraiment tout a été fait pour effacer les traces. Et vous dites, s'il n'y avait pas eu cette caméra de vidéosurveillance, on ne m'aurait jamais cru.
Bien sûr. Et j'ai essayé de détailler dans ce livre le plus que possible ce qui s'était passé, parce que je trouve que les UMJ, par exemple, les unités médico-judiciaires, est un rouage important.
Oui.
C'est un maillon important dans cette chaîne-là. Et si je n'avais pas de vidéo, il ne m'aurait resté que le certificat des UMJ pour pouvoir justifier mon agression.
Certificat qui était ultra laconique et qui minimisait les faits.
Bien sûr, bien sûr. Et je trouve que c'est extrêmement grave. Parce que comment voulez-vous que la justice puisse statuer sur une agression si un jour de différence d'interruption temporaire de travail sépare l'agresseur et l'agressé?
Et d'ailleurs, vous avez écrit à l'ordre des médecins qui vous a pas répondu.
Maintenant, je crois qu'une décision a été prise, mais ça a été classé sans suite. Ça n'ira pas plus loin.
Vous attendez quoi de l'enquête et d'un éventuel procès?
Écoutez, moi j'attends. Moi, je respecte la justice et j'attends que la justice puisse se prononcer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses sont plutôt assez claires. au vu des vidéos. Je vois des fois certains syndicats de police qui appuient un petit peu sur des choses inexistantes. Mais c'est un procédé que j'ai compris que c'était le procédé, c'est-à-dire que certaines personnes ont accès à nos données personnelles et peuvent à tout moment les divulguer. C'est arrivé dans le passé. Même des fois, ça concerne même pas les victimes de violences elles-mêmes, mais tout est fait pour pouvoir asseoir la victime sur le banc des accusés.
Alors, votre cas, il a alimenté le débat récurrent sur la police. Est-ce que ces actes de violence policière relèvent de l'exception, des mauvais éléments, ou est-ce qu'il y a quelque chose de systématique? Vous dites quoi, vous, Michel Zecler?
Moi, ce que je dis, c'est que face au racisme, je trouve qu'il y a trop la police est trop permissive face au racisme. Okay. Ça, c'est ce que je trouve. Maintenant, des histoires comme ça, on en entend beaucoup. Beaucoup trop à mon goût et très peu d'images. Et même quand il y a des images, je vois comment c'est traité. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un problème et qu'il faut effectivement en parler.
À propos du racisme, au-delà de la police, il y a un détail qui est entre guillemets amusant dans votre récit. Vous êtes de peau noire, vous appelez Michel.
Oui.
Et que ce soit pour chercher un job ou dans d'autres circonstances de la vie, quand on appelle au téléphone, bonjour, je m'appelle Michel. Ah mais super, venez. Et quand vous venez, c'est plus compliqué.
Et j'ai plus l'apparence de Mamadou.
Ouais.
Je le dis en anecdote comme ça parce que je trouve que dans toute la durée de vie d'un homme, de la mienne, de toute façon, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté très souvent, trop souvent même peut-être.
Alors à propos de cette couleur de peau, je voudrais revenir sur ces lignes qui viennent très vite dans le livre. Vient en moi une ambivalence, une partie de moi revendicatrice de mon identité, ma couleur, mes origines, une autre désir de se fondre dans une société sans couleur. Vous en êtes toute cette ambivalence là aujourd'hui?
Écoutez, moi j'ai toujours les mêmes amis. Ils ne sont pas catégorisés en fonction de leur couleur de peau. Ça ne m'a jamais posé de problème.
Oui.
Ça pose des problèmes à certaines personnes qui sont souvent en face de nous et moi je n'arrive pas à trouver de réponse à ça vu que pour moi ce n'est pas logique. Je n'arrive pas à comprendre.
Alors, ce livre, c'est un récit de votre vie, celle d'un enfant qui connaît quasiment pas son père, connaît quasiment rien de son père, élevé par votre mère à Bagneux, d'un ado qui dérive aussi jusqu'à faire 7 ans de prison pour vol à main armée. Vous dites, je n'en tire aucune gloire, j'ai perdu les 7 plus belles années de ma vie. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui à quel moment vous basculez et qu'est-ce qui vous fait basculer?
Vous savez, on parle d'une histoire qui date de plus de 20 ans. J'étais un gamin. Mes idées n'étaient pas encore construites. Je ne savais pas trop où j'allais. J'avais envie de m'en sortir. Et des fois, on prend un chemin au lieu d'en prendre un autre. Et puis tout part en cacahuète.
Tel que vous le racontez, il y a une mauvaise rencontre.
Oui.
Besoin d'argent et quelqu'un qui vous dit ah ben j'ai un plan. D'abord on vole des Clio et puis ça, c'est de plus en plus grave. C'est ça l'engrenage.
Ça peut être ça. Ça peut être autre chose, mais ça fait partie de cet engrenage-là.
Alors vous racontez les années de prison. Vous dites il en reste la discrétion. Je suis resté après ces années quelqu'un de discret.
Après, je raconte aussi beaucoup de choses.
Ah, mais on va en parler des autres choses, parce qu'il y a une page d'histoire du rap passionnante.
Oui.
Mais voilà, vous êtes un grand gaillard costaud qui a une place dans le monde du rap et vous dites, il reste de ça la discrétion.
Oui, parce que c'est pas quelque chose que je souhaite valoriser. Et que moi, pour moi, ce qu'il faut valoriser, c'est les études, c'est les longues études, c'est le travail sur soi, c'est l'apprentissage, muscler ses connaissances,
ouais.
C'est son cerveau,
ouais.
C'est très important.
Alors on en vient au rap. Il y a deux personnes qui vous aident quand ça va pas du tout. Il y a Diams,
oui,
qui vous écrit pour vos 20 ans. Vous êtes en cellule, elle vous envoie 20 lettres. Et il y a Anne-Valérie Atlan, qui est une des personnes clés dans l'émergence du rap en France et qui est toujours à vos côtés. C'est presque un miroir. Quand on parlait des policiers, on se dit mais pourquoi s'est-il fait tabasser comme ça? Quand on voit Anne-Valérie Atlan, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est toujours là, elle, toujours fidèle? Est-ce que vous avez la réponse à ça?
Vous savez, moi, mon associé, je crois que des fois, il y a des gens comme ça qui sont faits pour se rencontrer.
Ouais.
Et on a besoin d'avoir des fois cette aura qui nous emmène ailleurs, qui nous montre autre chose. Et pour moi, Valérie a été cette personne-là. Donc elle m'a montré autre chose, quelque chose que, en plus de ça, j'appréciais déjà dès le début. Je raconte dans le livre que bizarrement, parce que je rappelle moi aussi à l'époque, et que lorsque j'ai sorti ma première mixtape, par exemple, c'est une mixtape, c'est les CD indépendants.
Ouais.
Et ben, elle l'avait chroniqué alors que elle dirigeait déjà un gros magazine hip-hop très connu.
Ouais.
Donc, en vérité, tout au long de ma carrière, avant d'être associé avec elle, déjà, on avait quelque part cette ligne. On était déjà sur ce même chemin, sur cette même route.
Votre histoire, c'est amicalement vôtre, dites-vous. Elle, famille juive algérienne élevée dans le 16e. On se souvient du générique d'Amicalement Vôtre qui défilait. La découverte du rap, ça se passe dans un bus scolaire. Qu'est-ce qui se passe au moment où le chauffeur de bus met à la radio ce groupe de rap belge?
Bah écoutez, il y a quelque chose de différent qui se passe. Et puis après c'est une ambiance. Et puis surtout après j'ai été découvert d'autres choses. Et j'entendais des gens qui évoquaient des choses que nous vivions. Donc c'est ce mélange là où on commence à appartenir à quelque chose, à un groupe. Et on a l'impression de tous se comprendre sans se parler, juste en écoutant de la musique. Donc c'est très fort. Et puis après, ça m'a guidé tout le reste de ma vie, parce que la musique m'a suivi tout au long de ma vie.
Et Diams?
Diams, c'était une rencontre par le biais d'un ami. C'est encore la musique qui nous a fait nous rencontrer. Et puis c'était une très belle rencontre, parce que c'était une rencontre artistique. Et vu que j'appréciais beaucoup ce qu'elle faisait, j'étais même admiratif, moi, de son talent. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et donc moi, je continuais à chanter, à rapper à ses côtés. Et puis après, elle est devenue la grande artiste que tout le monde connaît aujourd'hui.
Alors,
je suis très fier.
Ça décolle votre activité avec Valérie Atlan après une rencontre avec La Fouine. Il y a quelque chose de frappant, parce que ça raconte vraiment l'émergence, un peu plus que ça, du rap français. Ça se joue sur trois fois rien, c'est-à-dire que La Fouine, au début, c'est vous organisez un concert avec lui, c'est vraiment pas gagné. Ça joue sur un rapport, comment dire, sur les mots-clés que elle s'est prononcée au bon moment, et bim, ça décolle. Ça raconte vraiment quelque chose du rap au moment où c'était à la fois le début et où l'argent arrivait.
Ouais. Oui, c'est vrai que La Fouine, c'est aussi quelque chose de très artistique.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, je connaissais pas du tout cet artiste-là, et quand je découvre son album, parce qu'on produisait des émissions indépendantes avec Valérie, j'ai écouté cet album qui était aller-retour à l'époque, qui m'a mis une grosse claque artistique.
Ouais.
Après l'avoir vu sur scène, honnêtement, on est artistiquement tombé amoureux.
Ouais.
Et on s'est dit que c'est pas normal que il y a pas assez de gens qui connaissent cet artiste-là, qui est complet, finalement.
Et vous mouillez la chemise, elle prend de gros risques financiers, et ça passe. Ça raconte aussi comment Bagneux a joué un rôle clé dans l'émergence du rap en France. Et puis, comme ça marche, ben, vous passez de Bagneux à un bureau à côté de Boulogne, puis le fameux studio du 17e arrondissement, et vous racontez un épisode récent. Vous avez maintenant une vie entre la banlieue et les beaux quartiers, en fait, où vous êtes installé, et un jour vous retournez à Bagneux, et un gamin du quartier vous dit « tu parles bizarrement ».
Oui, parce qu'on a en fait, c'est à ce moment-là que je comprends un peu plus que même le langage est des mains, on parle avec les mains, tout est différent, et au final, quand on ne connaît pas, ça peut même limite faire peur.
Et vous mesurez comme cela à quel point vous avez changé aussi le parcours.
Je dis pas changé, je dis évolué, finalement.
Évolué, c'est noté. Un dernier mot, je le disais, vous savez presque rien de votre papa, sauf son métier.
Oui, je l'ai appris en écrivant ce livre, en me renseignant, parce que c'est ce livre qui m'a donné envie d'aller découvrir un petit peu plus dans mon parcours, dans mon passé, ce que j'avais jamais fait avant. Ouais. J'ai posé plusieurs questions à ma mère, à ma famille, et puis j'ai appris ce qu'il faisait comme métier.
Et alors ?
Ben, il était policier.
Et alors ?
Et alors, il était policier.
C'est ironique.
Ouais.
Merci Michel Zecler d'être venu.
Merci à vous,
au micro de France Inter. Restez debout, c'est publié chez Plomb. Bonne journée à vous, il est 13h44.